Il faut dire quand même une chose sur la société chilienne. La société particulière, c'est qu'elle est très fragmentée. C'est-à-dire que les riches sont avec les riches, la classe moyenne avec la classe moyenne, les pauvres avec les pauvres. Si bien qu'on peut avoir l'illusion, très souvent partagée par les voyageurs, plutôt généralement nantis quand ils ne sont pas touristes, que y a un miracle chilien. Miracle chilien, il faudrait y voir de plus près, et notamment quand on va chez les Mapuches, dans cette zone où nous sommes, 70 à 80% des Mapuches vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il faudrait aussi au Chili mesurer l'extraordinaire fossé entre les riches et les pauvres. 4 Chiliens sont présents au classement des 100 premières fortunes mondiales. Pour un pays de 17 millions d'habitants, 47% des actions en bourse sont entre les mains de 4 personnes. C'est quand même pas mal. Monsieur Luxic, la famille Angelini, Matei Piñera, qui à eux seuls représentent 12% du produit intérieur brut. Piñera. C'est le frère de Piñera, le président, un Chicago boy qui était ministre de l'économie du temps de Pinochet et qui a facilité à l'actuel président Sébastien Piñera l'acquisition de la compagnie aérienne nationale LAN, d'où lui vient sa fortune. Miracle, donc on le voit, miracle chilien pour certains Chiliens et beaucoup moins pour ceux chez qui nous nous trouvons en ce moment et avec qui nous nous trouvons en ce moment, c'est-à-dire ces Mapuches en lutte. Je le disais en commençant, c'est vrai, souvent intéressé à ces luttes et à la vie, la survie, les combats des Indiens. J'ai noté quelque part que Pinochet avait interdit qu'on utilise le mot indigène. Alors on va dire indigène. Et c'est vrai que on ne peut qu'éprouver sympathie, solidarité, admiration pour ces lutteurs, ces militants indiens, si longtemps massacrés, exploités, spoliés, relégués, assimilés et folklorisés. La folklorisation de l'indigène est l'avatar actuel de cette élimination. L'Indien folklorisé, c'est l'Indien world music, c'est l'Indien guide du routard ou Lonely Planet avec des plumes et le pancho chamarré, c'est l'Indien haut en couleur qui est censé représenter une authenticité, une pureté que le monde moderne, occidental, aurait profané. C'est l'Indien prisonnier de l'imaginaire exotique. Mais qui parfois s'auto-folklorise. Il y a la folklorisation, mais il y a aussi l'auto-folklorisation. De lui-même, l'indigène donne une image qui coïncide avec les fantasmes qui sont projetés sur lui. Il remplit ainsi son rôle, celui du pur et bon sauvage, ultime ambassadeur d'un paradis perdu. Contre toutes ces formes d'élimination, les mouvements indigénistes peuvent parfois se radicaliser, se refermer sur eux-mêmes, sur un communautarisme ethnique, une sorte de racisme à l'envers, un intégrisme identitaire. Mais on trouve aussi dans les mouvements indigénistes une force qui, souvent, parfois en tout cas, se tisse avec les autres mouvements populaires, avec les autres mouvements sociaux, car le trait commun aux mouvements indigènes dans les Amériques, mais aussi ailleurs dans le monde, on l'a vu au moins en Inde, est une très claire conscience du lien de l'homme avec son environnement. Ici, c'est la Pachamama qui est présente, c'est cette figure de la Pachamama qui est présente. Et c'est là la ligne de front, c'est ça le combat actuel. La guerre contre les multinationales qui pillent les matières premières, qui détruisent la biodiversité, qui construisent des barrages et qui creusent des mines et qui violent la Pachamama. Tout ça repose bien évidemment sur une appropriation. C'est la question de la propriété privée. Et cette question de la propriété est au cœur des luttes indigène. Et par là même, elle rejoint la lutte pour l'appropriation des moyens de production qu'on trouve dans les autres mouvements sociaux, dans les mouvements populaires depuis très longtemps. Et c'est quand ces mouvements sur la propriété, sur la question de la propriété, se parviennent à se rejoindre, que les choses bougent et peuvent arriver, parvenir à changer profondément